VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Eric Manirakidze en direct du studio 13 de La Voix de l'Amérique à Washington. C'est votre rendez-vous du monde aujourd'hui, édition du 14 avril 2017. La première de la soirée. Merci de votre fidélité. D'abord le sommaire. RDC, un suspect arrêté dans l'affaire de meurtre de deux experts onusiens dans le Kassai. Le Nigeria se recueille pour les filles de Chibok kidnappées il y a 3 ans après. Grève à l'université Marie Ngouabi à Brazzaville. À Niamey, le campus est fermé. Tandis qu'à Tunis, les étudiants organisent une journée de colère. Plus de 20 ans après, les soldats américains reviennent à Mogadiscio. Nous aurons les sports et l'économie après ce journal. D'abord, la destination, c'est la RDC. La justice militaire interroge un suspect dans le cadre de l'enquête sur le meurtre des deux experts onusiens dans le Kassai central. Les précisions avec Dili Diko.
Les autorités congolaises disent avoir arrêté deux suspects dans l'enquête sur les meurtres de Michael Sharp, Zaïda Catalane et leur interprète Betou Chintela. Le général Joseph Pondé, procureur de l'armée, précise que l'un des deux suspects s'est échappé avec la complicité de 4 policiers placés en garde à vue. Le suspect en détention, Daniel Mbayi Kabasele, est qualifié d'insurgé par le procureur militaire qui n'a donné aucune précision sur les motivations. Les deux experts de l'ONU enquêtaient sur des allégations de violation des droits de l'homme suite à la découverte de plusieurs fosses communes dans la région. D'ailleurs, leurs dépouilles ont été retrouvées dans une fosse commune le 27 mars, 2 semaines après leur disparition. La province du Kassai central est le théâtre de violences qui ont fait des centaines de morts depuis l'apparition en septembre 2016 d'une rébellion se réclamant d'un chef traditionnel, Kamuinan Sapu, qui a été abattu par les forces de l'ordre.
Toujours en RDC, un dirigeant syndical a été libéré sous caution hier soir à Lubumbashi. Jean-Pierre Muteba a fait 4 jours de détention, poursuivi pour rébellion et outrage à officier de police. Les enquêtes et les poursuites ne sont pas pour autant abandonnées. 3e anniversaire au Nigeria, dont l'enlèvement des lycéens de Chibok par Boko Haram. Plusieurs rassemblements sont organisés dans le pays, comme le précise Tatiana Mousseau.
Alors qu'elles étaient en train de passer leur examen, 276 élèves ont été kidnappés le 14 avril 2014. 57 d'entre elles sont parvenues à s'échapper juste après le rapt. Relayé par les médias du monde entier, cet enlèvement de masse avait provoqué une vague d'indignation. En octobre 2016, 21 jeunes filles ont été libérées, pour certaines avec des enfants nés en captivité, après des négociations entre Boko Haram et le gouvernement, avec l'aide du Comité international de la Croix-Rouge et de la Suisse. Une poignée a été retrouvée dans la forêt de Sambisa, mais 195 lycéennes sont toujours portées disparues. À Abuja, la capitale fédérale, où le collectif Bring Back Our Girls est resté actif, des arbres seront plantés à la mémoire des jeunes filles. À Lagos, la capitale économique, le collectif doit se recueillir pour des prières. Mais Bring Back Our Girls, un slogan scandé depuis 3 ans, semble s'enliser, tout comme le conflit contre Boko Haram. Les lycéennes de Chibok sont devenues un symbole. Aboubakar Shekau, le leader du groupe djihadiste, a affirmé dans une vidéo qu'un grand nombre d'entre elles avaient été tuées dans des raids de l'armée nigériane.
Et au Gabon, les services de renseignement ont arrêté hier Alain Djali, l'assistant personnel de l'opposant Jean Ping. 3 Sud-Soudanais employés d'un sous-traitant du PAM ont trouvé la mort lundi dans des combats à Wo, dans le nord-ouest du pays. Ils tentaient de rejoindre un entrepôt du PAM. Au moins 6 civils ont été tués selon la mission de l'ONU au Soudan du Sud. En Tanzanie, 8 policiers tanzaniens sont morts par balle hier soir dans l'est du pays. Les autorités ont dit que 4 suspects ont été abattus par des policiers parti à la recherche des auteurs de l'attaque jusque-là inconnue. Cette région est frappée ces derniers mois par une série d'attaques contre des politiciens et des forces de l'ordre. Un tribunal tanzanien a ordonné l'extradition vers les États-Unis d'un baron de la drogue, Ali Ratik Haji Hassan, surnommé Shkuba, est accusé d'être à la tête d'un réseau mondial de trafic de cocaïne et d'héroïne. 2 de ses associés font aussi l'objet d'une demande d'extradition américaine. Des dizaines de soldats américains ont été déployés en Somalie pour la première fois depuis 1994. Leur mission et d'aider à former les troupes somaliennes de la MISOM, la mission africaine dans ce pays confronté à une insurrection islamiste, n'est-ce pas Abdulrahman Dia?
Sous la supervision du Centre de commandement américain en Afrique, AFRICOM, ces soldats vont conseiller et former leurs collègues somaliens dans leur lutte contre le groupe islamiste Shabab. La mission devrait s'étendre jusqu'au mois de septembre, selon le porte-parole d'AFRICOM. Pat Barnes a néanmoins précisé que ce déploiement s'est fait à la demande du nouveau gouvernement somalien. Washington avait déjà quelques conseillers militaires sur place. Al-Shabab a multiplié les attentats suicides depuis la prestation de serment d'Abdullahi Mohamed, qui a promis d'intensifier la lutte contre le groupe armé. Il a donné 60 jours aux jeunes qui s'étaient engagés dans les rangs des djihadistes à renoncer à la lutte armée pour bénéficier d'une amnistie. En 1994, les États-Unis avaient perdu 18 soldats dont les cadavres avaient été traînés dans les rues de Mogadiscio. Le président Bill Clinton avait alors décidé de mettre fin à la mission « Restaurer l'espoir » en Somalie.
En Tunisie, un syndicat des étudiants observait une journée de colère pour dénoncer des violences policières. Mardi, des étudiants avaient manifesté contre un décret ministériel modifiant les conditions d'accès au concours d'entrée à l'Institut supérieur de la magistrature. De son côté, le ministre de l'Intérieur, Eddy Majoud, a démenti toute violence policière. Il a affirmé que les heurts avaient opposé de groupes d'étudiants. En Égypte, l'avocat Mohamed Ramadan a écopé 10 ans de prison. Il est accusé d'avoir insulté le président Sissi et incité au terrorisme sur les réseaux sociaux. Paris attribue demain la nationalité française à d'anciens tirailleurs africains ayant combattu dans les rangs de l'armée française en Indochine ou en Algérie entre 1857 et 1960. Il s'agit de 23 Sénégalais, 2 Congolais, 2 Centrafricains, 1 Ivoirien. Selon l'Élysée, cet acte s'inscrit dans la volonté de reconnaître l'engagement et le courage de ces tirailleurs pour la France. Nous y reviendrons dans la partie magazine.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Référendum dimanche en Turquie sur une révision constitutionnelle. Ce vote historique vise à renforcer les pouvoirs du président Recep Tayyip Erdogan. Les précisions de Salwa Jafari. Une excuse pour ce petit incident technique. Je vous disais donc que la Turquie organise un référendum sur une révision constitutionnelle. Suivez Salwa Jafari.
C'est un vote qui divise le pays. Près de 55 millions d'électeurs vont devoir se prononcer par référendum sur une révision de la Constitution et beaucoup sont descendus dans les rues aujourd'hui pour dire non. Le texte prévoit de renforcer les compétences du président qui rassemblerait l'essentiel du pouvoir exécutif. Cette consultation qui pourrait en théorie permettre à Erdogan de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2029 est un test majeur pour l'homme fort du pays, surtout après le coup d'État avorté du 15 juillet dernier qui a entraîné des purges à grande échelle dans tous les milieux. Bien que pour l'heure, les derniers sondages semblent montrer un certain élan en faveur du oui, le parti de la justice et du développement au pouvoir depuis 2002 n'a pas ménagé sa peine pour fédérer plus de supporters en organisant rallyes électoraux et autres manifestations. Une victoire du non au référendum serait sans doute un camouflet pour Erdogan qui a mis tout son poids dans la campagne. Par ailleurs, le résultat de cette consultation populaire influerait sur l'avenir des relations avec l'Union européenne. Erdogan a indiqué que la candidature de la Turquie qui a l'UE au point mort depuis des années serait mis sur la table après le référendum. Il a aussi relancé le débat sur le rétablissement de la peine capitale, une ligne rouge pour Bruxelles.
Toujours en Turquie, 5 membres présumés du groupe État islamique ont été arrêtés. Ils sont soupçonnés de préparer un attentat avant ce référendum. En Syrie, des milliers de civils et de combattants ont quitté aujourd'hui 4 villes assiégées depuis 2 ans par l'armée ou des rebelles. Cette opération a été menée sans heurts et met en application un accord entre les parties adverses. Et à propos de l'attaque chimique présumée en Syrie, la Russie a critiqué l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques pour son incapacité à enquêter sur le terrain. Moscou souhaite que des experts américains et russes se joignent à l'enquête. Le gouvernement afghan a déclaré que la bombe à effet de souffle massif, surnommée mère de toutes les bombes, a détruit un fief montagneux d'un groupe État islamique dans l'est du pays et a fait 36 morts. C'est la première fois que cette plus puissante bombe américaine non nucléaire était utilisée au combat.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
C'était votre journal. Vous suivez le monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique, suivez Claire Morin-Gibourg pour la chronique de la Minute Éco.
Abidjan et Accra ont jeté les bases d'un cartel du cacao. Au terme de deux jours de conclave, le Conseil Café Cacao côté ivoirien et le Cocoa Board côté Ghana ont signé hier les accords d'Abidjan, premier pas vers une coopération sur les problématiques de la filière, production, transformation ou même changement climatique. L'idée centrale est la fixation des cours des fèves sur le marché international. Fournisseur de 60% de l'offre mondiale de cacao, Abidjan et Accra restent vulnérables à l'instabilité des cours, lesquels ont chuté de 35% depuis un an en raison d'un surplus de production. Lors d'une réunion aujourd'hui des ministres des Finances de la zone franc à Abidjan, le ministre français de l'économie Michel Sapin a refusé d'évoquer le débat sur le franc CFA, se retranchant derrière la souveraineté des Africains sur le sujet. Le franc, malgré son nom, est la monnaie des Africains, a-t-il dit, insistant sur le fait que c'était, je le cite, 5-4-3-2-1-0, insistant sur le fait que, je le cite, c'est aux Africains de se prononcer et ce n'est pas à nous de le faire à leur place. L'automatisation du travail, qui devrait remplacer jusqu'à 50% des métiers actuels, ne laissera pas le continent africain indemne. Selon le magazine Jeune Afrique, 5 pays africains sont tout particulièrement concernés par l'essor de la robotisation : le Kenya, le Maroc, l'Égypte, le Nigeria et l'Afrique du Sud.
Sans transition, nous ouvrons la page sportive. Ce soir, c'est Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Eric, bonsoir à tous.
On commence avec la Coupe CAF. Ce week-end, on joue les matchs retour des barrages.
Oui, et tout reste à faire hein, pour les matchs Sumuha Bidvest 0-0 à l'aller ou encore Recreativos CNAPS de Madagascar. Hilal Obed joue contre Port Autorité, Supersport United contre les Libériens du BYC, BYC. Et les Corbeaux du TP Mazembe devraient pouvoir capitaliser sur leur succès 2-0 à Lubumbashi lors du match aller. Mais la JS Kabylie ne compte pas se laisser faire à Tizi Ouzou en Algérie, battu 1-2 à Libreville. La SEC Mimosa d'Abidjan a l'occasion à domicile de renverser la vapeur devant le CF Mounana du Gabon. Même scénario pour le MAS FES dans le duel entre Marocains face au FUS Rabat. Avantage pour le club africain et le CS Faxien qui se sont imposés à l'aller 2-1 respectivement face à Port-Louis et au Rai Club du Kadiogo pour le CS Faxien. Enfin, le Oroya de Guinée devra se montrer costaud devant Itiad Tanger au Maroc malgré le succès 2-0 à Conakry.
Bagassi, une histoire de fesses dans le foot en Tunisie.
Eh bien Eric, savez-vous ce que ça peut vous coûter de pincer les fesses d'un arbitre?
Oui, le président du club.
Voilà, le président du club,
Safien. Ah, c'est quelque chose.
Oui, il a été, la sanction, c'est qu'il a été suspendu à vie de toute activité dans le football. Le président du club faxien, donc Moncef Kemankem, qui s'était vanté d'avoir pincé à deux reprises les fesses d'un arbitre assistant lors d'un match du championnat tunisien. Quoi, il faut savoir se comporter.
Oui, Bagassi, en cyclisme, 4e étape du 26e Tour du Togo.
Oui, à 108 km aujourd'hui, entre Kara et Tchamba ce vendredi, c'est le Belge Sepp Wangeloué qui a remporté cette étape en 2h53'16. Le Togolais Akanga Abdourouf occupe la deuxième place du jour. Un autre Belge, Stijn Van Cooper, est arrivé en 3e position. À l'issue de cette 4e étape, le Néerlandais Peter Merckx Sharks conserve toujours le maillot jaune.
Un mot sur la NBA, Bagassi.
Eh bien, les playoffs sont annoncés à partir de ce samedi en conférence Est comme en conférence Ouest. C'est tout donc pour le sport, Eric.
On verra Boston contre Chicago, Cleveland contre Indiana, Toronto, Milwaukee, Washington, Atlanta.
Ça, c'est en conférence Est.
Merci, Bagassi.
Merci.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Eric Manilakiza, en direct du studio 13 de La Voix de l'Amérique à Washington, pour aborder la seconde partie de votre édition. Au Congo-Brazzaville, les activités sont paralysées à l'université Marie Ngouabi. Les syndicats des enseignants réclament d'être payés à temps et dénoncent leurs conditions de travail. Les étudiants craignent de leur côté du retard sur le calendrier académique. Le point avec notre correspondant sur place, Nguela Ngoussou.
Voici trois jours, les cours sont suspendus à l'université de Brazzaville, la seule que compte l'État. Fidel Mukamba, le secrétaire général du CNESUP, le principal syndicat de l'université Marie Ngouabi, dit que le mouvement a été suivi à 100%.
Nous pensons que l'université, ce n'est pas une maison d'administration où les gens viennent pour soir étudier des dossiers ou quoi, mais c'est un laboratoire sans lequel tout développement n'est pas possible dans notre pays. Et il faut qu'il y ait des moyens. Au plan budgétaire, l'université n'a pas suffisamment de moyens budgétaires pour faire fonctionner les établissements. Je dis par exemple qu'aujourd'hui nous sommes en train de boucler l'année académique 2016-2017. Mais bon, il y a au titre de l'année académique 2015-2016, nous avons effectué des heures complémentaires supplémentaires qui sont restées impayées jusqu'à aujourd'hui. Voilà ce que nous revendiquons. Donc, le mouvement est bien suivi depuis le 12, le 13 et aujourd'hui le 14. Et tout est bien arrêté. Oh, mais j'ai pu dire à 100%. Hein.
À la faculté du droit et à la faculté des lettres, quelques étudiants viennent constater l'inactivité des profs. En fait, ils devaient commencer cette semaine leurs examens.
Oui, ça nous gêne parce qu'il y avait des examens qui étaient prévus pour le passé. Malheureusement, depuis le lundi, la date a été prévue, mais arrivé là, toutes les salles étaient fermées, il n'y a personne, donc ça nous dérange.
Étant étudiant, lorsqu'on affiche une date pareille, on se lance déjà dans la session, dans les examens. Du coup, on arrête. Et mentalement, on est abattu.
Oui, ça me gêne parce que j'allais déposer mes dossiers de la bourse là, mais c'est fermé, donc je ne sais pas comment faire. Non, on dit rien.
D'autres étudiants s'inquiètent de la récurrence du phénomène de grève.
Si l'État ne prend pas soin de régler cette situation, chaque année, ça sera toujours la même chose qui va se répéter. Et pour nous, les étudiants, les futurs cas de demain, on ne sait pas, on ira où bon. Si eux, jusqu'alors, on n'arrive pas à résoudre leur situation, est-ce qu'à notre tour aussi, on va résoudre cette situation-là? Chaque année, ça se répète, l'État n'arrive pas à prendre des décisions fermes sur ça, on ne comprend pas. Bon, ça nous gêne vraiment.
Durant les trois journées dites « Université morte à Brazzaville », le ministre des tutelles Bruno Jean-Richard Itois, en voyage à Cuba, n'a pu rencontrer les enseignants en grève. Finalement, c'est à la fin de cette journée qu'une rencontre aurait eu lieu à la présidence de la République. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique à Brazzaville, sur le 101.9 FM.
Destination au Niger, où le campus universitaire de Niamey n'est toujours pas ouvert, 4 jours après des affrontements entre étudiants et forces de l'ordre qui ont occasionné le décès d'un étudiant. Plusieurs voix s'élèvent pour condamner ces événements et demander aussi la réouverture du campus pour une reprise des cours en moins de 3 mois de la fin de l'année académique. Le point avec Abdelrazak Idrissa.
La plupart des structures organisées qui se sont prononcées sur ces événements du 10 avril dernier ont fermement condamné la manière dont l'opération de maintien d'ordre a été conduite par les éléments de la police, de la garde et de la gendarmerie nationale. Talibi Hamidou Moussa, rapporteur général de la Commission nationale des droits humains.
L'irruption des forces de l'ordre au sein du campus, en violation des franchises universitaires, s'est effectuée dans une violence qui n'a épargné ni étudiants, ni personne étrangère au mouvement étudiantin. Et le bilan est grave. Un décès constaté à la morgue de l'hôpital national de Niamey, 4 blessés graves et plusieurs dizaines de blessés aussi bien dans les rangs des étudiants que des forces de l'ordre. Les portes et fenêtres des dortoirs des étudiants défoncés, plusieurs cas de vol d'ordinateurs portables, de téléphones cellulaires, de portefeuilles, et de motos.
Le syndicat des enseignants des universités publiques du Niger s'est lui offusqué de la violation des franchises universitaires par les forces de l'ordre. Fatima Mayati, membre du bureau du SNEX.
Ce sont des faits inadmissibles dans un état de droit. C'est pourquoi le BENSNEX condamne fermement la violation des franchises universitaires et ces faits barbares qui relèvent d'une autre époque et non d'un état de droit. Exige l'ouverture d'une enquête indépendante pour situer les responsabilités et déférer les responsables de ces ignobles actes devant les juridictions compétentes. Exige l'ouverture immédiate des campus universitaires de Maradi et de Niamey. Demande le retrait des forces de sécurité des enceintes universitaires.
Les jeunes avocats ont également dénoncé la violence qui a caractérisé cette intervention des forces de l'ordre avant d'exiger la réouverture du campus et la libération des scolaires arrêtés. Boudal et Fred Mouloul, président de l'Association des jeunes avocats du Niger.
La JAN demande à tous les acteurs de la vie nationale d'œuvrer pour que les auteurs directs et indirects des agissements ayant entraîné mort d'hommes soient identifiés et poursuivis. La JAN rappelle au gouvernement que dans un état de droit, la vie et la liberté sont sacrées. C'est pourquoi elle exige la libération immédiate des scolaires arrêtés.
Les partis politiques de l'opposition et un collectif de la société civile ont aussi condamné la répression de la manifestation et exigé la réouverture du campus ainsi que la démission de tous les responsables ministériels, académiques et sécuritaires. Abdelrazak Idrissa, à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Regard sur les tirailleurs sénégalais. Ils formaient un contingent d'engagés venant du Sénégal, mais aussi du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée. Ils ont intégré des rangs de l'armée française en 1857 jusqu'au début des années 1960. Aujourd'hui, il y a une volonté, particulièrement au Sénégal, de mettre en avant cet héritage militaire. Blanche Sanou a joint à Dakar le professeur Iba Dertiam, coordonnateur général de l'histoire du Sénégal.
Je pense que ce qu'on peut retenir, c'est qu'ils ont participé à la conquête de l'Afrique au service de la France, dans un contexte colonial qui avait ses contraintes et ses obligations. Ils ont joué un rôle quelquefois important, qui a été en tout cas à la base de beaucoup de changements qui sont intervenus. Et si l'Empire français a pu se mettre en place entre 1871 et 1914, ce fut essentiellement parce qu'il y avait les troupes de tirailleurs sénégalais ainsi que celles des pays. Ce que moi je considère comme étant le plus important dans l'action qu'ils ont menée, c'est qu'ils ont participé pendant la Deuxième Guerre mondiale aux différentes opérations qui ont été menées dans la lutte contre le fascisme, dans la lutte contre le militarisme. Ils apparaissent, qu'on le veuille ou pas, comme étant parmi les pionniers de ce qu'on appelle le monde libre.
Peut-on dire qu'il y a eu réellement une reconnaissance pour les tirailleurs sénégalais de la part de la nation française?
Il y a eu des moments où il y a eu de la reconnaissance. Dans de nombreux villages en France, les populations qui se souviennent parfaitement des sacrifices que ces tirailleurs se sont imposés pour les protéger et assurer leur sécurité. Du côté du gouvernement français, des monuments ont été quelquefois élaborés. Peut-être que tout ce qui a été fait n'a pas été fait, parce que quand ces gens se sont sacrifiés, on n'a pas, à la fin de la guerre, tenu compte de ces sacrifices dans les traitements qui leur ont été versés à titre de pension. Les pensions des Noirs étaient différentes des pensions des Français. Ils ont ainsi, pendant des années et des années, vécu dans une situation de misérabilisme criard. Il a fallu des procès, il a fallu des démarches, il a fallu des campagnes de presse pour qu'en définitive, le Conseil d'État a décidé de reconnaître qu'ils avaient droit au même traitement que les autres.
Dites-nous, professeur, comment l'État sénégalais commémore ou rend hommage aujourd'hui à ses combattants?
Il a non seulement élaboré un mémorial qui est consacré aux tirailleurs sénégalais, notamment au cimetière de Tiaroy, mais le Sénégal a encore fait beaucoup plus loin, puisque le président de la République du Sénégal, son excellence Macky Sall, a négocié avec la France à Dakar des archives qui ont été détenues jusque-là par la France relatives aux événements qui se sont passés à Tiaroy en novembre-décembre 1944. Ces archives ont été remises au président de la République du Sénégal, qui les a confiées à une commission dont je suis le président et qui travaille aujourd'hui à les passer en revue.
Le professeur Iba Dertiam, coordinateur général de l'histoire du Sénégal.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
L'armée américaine a largué hier la plus puissante bombe non nucléaire dans l'est de l'Afghanistan. Cette action intervient quelques jours après le bombardement de la Syrie la semaine précédente et la série de frappes aériennes, plus de 40 contre Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Pour comprendre le déploiement militaire américain qui semble s'intensifier, Anastasie Tudiesch, adjoint professeur d'anthropologie à l'université Lehigh en Pennsylvanie, Bruce Whitehouse.
Bon, il faut reconnaître que comme candidat à la présidentielle l'année passée, Donald Trump a promis très directement de bombarder les combattants de l'État islamique hors d'eux, pour reprendre ses propres mots. Et c'est simplement ce qu'il poursuit. À mon avis, il n'a pas d'autre but très clair pour le moment, ni politique ni militaire. Ces frappes sont pourtant symboliques, à mon avis, et elles ne risquent pas de changer la situation militaire, sécuritaire, d'une manière dramatique. Ce sont des symboles qu'il veut manifester à ses supporters, et à ses ennemis aussi.
Aujourd'hui, pour la première fois depuis 1994, des troupes américaines sont arrivées en Somalie pour former les militaires somaliens ainsi que les soldats de l'AMISOM, la mission de l'Union africaine en Somalie. Est-ce qu'on doit s'attendre à un engagement militaire américain plus fort en Afrique?
Bon, il y a pourtant des forces spéciales américaines qui sont actives en Somalie et dans la sous-région sur la Corne d'Afrique depuis plusieurs années. Donc moi, je ne vois pas cette mission de formation AMISOM comme un grand départ de la politique sécuritaire du président Obama sur le continent.
Est-ce que la Corée du Nord doit craindre d'être la prochaine sur la liste des frappes américaines?
Bon, là, je me permets d'espérer que les généraux avec lesquels Trump s'est entouré depuis son investiture le déconseilleront de frapper la Corée du Nord. Eux, au moins, les généraux, ils comprennent que le coût de ces frappes serait énorme, pas moins pour la Corée du Sud. Donc, pour le moment, j'interprète le déploiement des navires dans le Pacifique comme encore un message, plutôt un symbole que d'une manifestation d'une intention militaire.
Toutes ces frappes qui se suivent depuis ces dernières semaines sont-elles accompagnées de pourparlers?
Notre président n'est pas un homme guidé par une doctrine politique ou stratégique militaire quelconque. En tant qu'ancienne personnalité de la télé, en tant que personnage de show business, il pense plutôt à son audience. Il s'agit plutôt de montrer que les États-Unis ont toujours la force militaire la plus puissante du monde. Donc la question de l'efficacité, leur capacité de changer la donne sur le terrain, franchement, je doute que...
Elle est secondaire?
Oui, de secondaire au moins.
Bruce Whitehouse en Pennsylvanie.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque vendredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique des Caraïbes. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. La mise en onde, le Mami, à la console, Nick Ifanov, Eric Manirakiza à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur votre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. C'est vendredi. La vie vous donne toujours une seconde chance qui s'appelle demain. Portez-vous bien. À bientôt.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wenpanga, Wayigouya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.